d'intégrer les paroles que je vous donne. On prendra le temps de réfléchir à tout cela. Voilà, bonjour à chacun. Bonjour Thierry. C'est un plaisir d'être là devant vous pour parler du mouvement des maisons de prière. Pas uniquement de Toda, mais des mouvements de maisons de prière, ce que Dieu est en train de faire de par le monde. Et je vais me chronométrer parce que je me connais. Voilà. C'est parti. La première fois que j'ai entendu parler de ce terme, maison de prière, c'était aux États-Unis, durant mon école de disciples. Ma curiosité a été un peu éveillée, mais je dois dire qu'il y avait aussi une part d'interrogation qui laissait place aussi à un peu du soupçon. Maison de prière, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, quelques pensées régionalistes qui allaient à peu près dans le sens de « ces Américains, vous voyez ». Et ma première expérience m'a en fait plus que apaisé, m'a émerveillé. On a passé 2 heures dans une salle à chercher la présence de Dieu, à vivre la présence de Dieu, à le louer, à intercéder. Et j'y ai vraiment trouvé goût, en fait. Je me suis dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire derrière cette façon de célébrer Dieu. Puis je me suis intéressé un petit peu aussi à ce développement-là. En fait, c'était pas uniquement dans ce petit coin de Californie, mais Dieu était en train d'attiser et d'éveiller son peuple, l'Église, pas uniquement aux États-Unis, mais de par le monde. Je me suis rendu compte que dans des régions où l'Église se trouve persécutée, des chrétiens se rassemblent pour vivre cette façon particulière de chercher Dieu, de le louer et de prier. Ça remonte, si vous voulez, à une longue histoire de l'Église. Et à partir du 4e siècle, voire même plus tôt, des personnes ont consacré leur vie à ce ministère particulier. Il s'agit donc, comme mon père l'a dit, bien plus que d'une cellule de prière. Ça ne remplace pas l'Église en aucun cas, c'est pas un nouveau mouvement d'Église, absolument pas. Alors justement, qu'est-ce que c'est ? Je vous propose en 3 petits points de réfléchir à cette question. Une maison de prière, qu'est-ce que c'est ? La raison d'être des maisons de prière, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça existe ? Et puis comment est-ce que ça s'insère dans le plan biblique ? Dieu agit toujours conformément à la volonté qu'il a révélée dans la Bible. La parole de Dieu est complète. Comment est-ce que cela s'insère dans ce plan ? On n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau à côté de la parole de Dieu, pas du tout. Et puis dernièrement, en quoi est-ce que ça importe ? Voilà, c'est bien joli, ça peut concerner certaines personnes si c'est par affinité, mais est-ce que ce mouvement parle à l'Église de Dieu aujourd'hui ? Au cœur des maisons de prière, le roi David, on ne le voit pas très bien, mais au cœur des maisons de prière, la raison d'être, c'est la communion avec Dieu. Et je pense que aucun verset, oui, non, c'est très subjectif. À mon sens, le verset que je vais vous lire exprime très bien cette raison d'être. Je demande à l'Éternel une chose. Et cette chose, je la désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27. C'est la réalité de la vie chrétienne. Elle est connue. Dieu veut une relation avec nous. La plupart du temps, quand on parle avec des gens qui ne sont pas vraiment de l'Église, on va dire « non, ce n'est pas une religion, c'est une relation ». On a l'habitude de ce vocabulaire-là et pourtant, il faut l'approfondir. Il faut réaliser que c'est une priorité. David le dit, une chose. Donnez-moi une chose de contempler Dieu. Et la Bible en parle du début à la fin. Pas toujours avec les mêmes mots, mais il est dit parfois « aimer Dieu de tout son être, demeurer dans son amour par-dessus tout. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. » Autant de phrases qui, qui résonne tout au travers du message biblique. Et il peut arriver parfois qu'on voie cela au mieux comme une forme de poésie, des figures de style pour exprimer simplement qu'on appartient à Dieu, ou alors au pire un commandement qui attend de nous un comportement particulier, bien chrétien. Tu vas aimer Dieu. Un peu un comportement qui est conditionnel. Et je crois que c'est totalement faux. Je crois que cette façon de parler là, elle reflète bien autre chose. Derrière ces affirmations, c'est Dieu qui nous révèle ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est comme ça que sa volonté fonctionne. C'est pas des commandements qui sont oppressants. C'est sa volonté pour nous, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous avons été créés comme ça. C'est dans notre ADN. On a besoin de cette relation. On a besoin de lui. C'est pas oppressant. C'est une question de vie, d'épanouissement. C'est naturel de ressentir cela. Si je prends l'exemple, presque un exemple familial, on l'a peut-être tous vécu à une certaine échelle, mais il est normal pour un enfant de rechercher la présence de ses parents. Très, très actuellement, on voit Arthur qui suit son père jouer de la batterie. Une expérience que j'ai faite, c'était j'étais enfant, on était dans un supermarché à Morges, et j'ai perdu ma maman. Et c'était traumatisant pour moi. Quelqu'un m'aurait dit, recherche ta maman, t'as besoin d'elle. Je lui aurais pas dit, je suis grand, c'est bon, je suis un homme, libre. Je vais le faire si je le veux, d'accord? C'est peut-être et puis peut-être pas. Non, je le désirais. C'était pas un commandement oppressant. En fait, c'était mon cœur qui criait, j'ai besoin de ma maman. Et je l'ai retrouvée. Magnifique. Non, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. On ressent ce manque. Et il faut apprendre à le reconnaître. C'est ce besoin d'éternité qui anime, pas uniquement ceux qui sont dans l'Église. Je suis persuadé que tant de personnes le cherchent. Et parfois se tournent ailleurs. Et avec ce mouvement de maison de prière, nous croyons que Dieu est en train de restaurer cet aspect prioritaire de la communion. C'est que de par le monde, il suscite dans l'Église ce cri du cœur. J'ai besoin de mon Dieu. Pas de ma maman, mais de mon Dieu. J'ai besoin. Et c'est prioritaire. Nous avons été créés avec ce désir. Voilà. Donc, la raison d'être, la priorité de ce commandement. Et ce commandement, cette réalité de notre désir, il s'enracine dans quelque chose de plus grand encore, que j'appellerais, peut-être plus que le plan historique du Père, je l'appellerais le désir du Père. C'est Adam et Ève, dans le jardin. Et pour comprendre ce désir du Père, il faut revenir jusqu'à là, jusqu'à ces premières pages de la Bible, qui nous montrent une réalité brisée, fracturée. La création de Dieu vivait parfaitement ce désir de communion avec Dieu, et puis la rupture a eu lieu, et la Bible nous dit que l'homme et la femme se sont cachés loin de l'éternel Dieu. Loin de l'éternel Dieu. Cette réalité-là, parfaite et absolue, n'est plus. Et là, au cœur de ce récit, il y a ces paroles extraordinaires. L'Éternel cherche l'homme et la femme et il leur dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Et ce cri-là de Dieu révèle le désir du Père. Il y a quelque chose qui a été brisé. C'est ce désir-là qui fait entrer toute notre humanité dans l'histoire. Dans l'histoire de la rédemption que l'on vit encore aujourd'hui, c'est ce désir de réconcilier la réalité de Dieu, le ciel, avec la réalité, notre réalité, la terre. Elle s'exprimera plus tard dans la prière de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. À partir de ce cri, où es-tu ? L'homme est cherché par Dieu. C'est ce désir qui anime l'Éternel. Et il se concrétise sur terre par une institution bien particulière qui s'appelle le Temple. Le Temple, c'est une histoire un thème qui traverse toute la Bible et qui va être le plan qui concrétise le désir du Père de rencontrer l'homme et la femme. Ce qui préfigure le Temple, c'est le tabernacle. Oui, on y arrive après. Le tabernacle qui a été construit par Moïse et les Israélites dans le désert, après avoir été sortis par Dieu de l'esclavage. Et tout est façonné pour reconstituer symboliquement la réalité du jardin, la réalité du paradis perdu. Ça nous paraît des fois barbant, ces descriptions dans Exode, de mesures, d'encens, de fleurs. C'est très décoratif, on se le représente assez mal. Tout cela est censé reconstituer, représenter ce qui a été perdu, la relation parfaite dans le jardin. Et à la fin de l'Exode, c'est parmi les tout derniers versets, à la fin de l'Exode, alors que Dieu a sorti le peuple d'Israël, qu'il est en train de mettre en œuvre ce plan, il leur donne une identité, il leur donne bientôt un pays, il leur donne tout un système qui va permettre de construire une nation. Par ces mots, l'auteur de l'Exode nous révèle pourquoi est-ce qu'il l'a fait. La fin de l'Exode, c'est ça. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Dieu vit parmi son peuple. Le dessein du tabernacle, puis du temple, c'est de reproduire cette communion. Alors le temple, on y arrive après, le temple justement, c'est cette double réalité. C'est d'une part quelque chose de physique, construit par Salomon plus tard, construit par ceux qui retourneront d'exil, c'est une réalité physique faite de pierres, de pierres précieuses, de métaux précieux. Et puis il y a une autre réalité, celle dont je viens parler, c'est un édifice qui permet la rencontre spirituelle. C'est un édifice spirituel. Et il est intéressant, alors que l'on s'attarde justement sur ce chemin, ce plan historique du Père, de comprendre comment est-ce que Dieu lui-même en parle. Et dans le mouvement des maisons de prière, ce verset-là, il est assez fondamental et il revient assez souvent. Puisqu'on entend maison de prière, tiens, ça sonne comme maison de prière, ça rime, donc voilà. Tiens, c'est dans Ésaïe 56, versets 6 à 7. « Ceux qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. C'est comme ça que Dieu appelle cette réalité-là. Il parle de son temple comme une maison de prière. C'est l'étiquette qu'il lui met, c'est l'étiquette qu'il lui place. Ah, vous parlez de mon temple ? Bah, c'est une maison de prière. C'est un lieu de rencontre avec son peuple, un lieu d'adoration. Il parle de sacrifice et d'holocauste. Un lieu de partage, de prière, d'échange. Et c'est sa définition et nous ne sommes pas autorisés à en choisir une autre. Vous connaissez cette histoire où Jésus, bien plus tard, entrera dans le temple, chassera ceux qui s'en occupent mal, ceux qui utilisent cet endroit pour d'autres fins, pour d'autres objectifs, et leur citera ce verset. C'est une maison de prière. Vous avez détourné cet objectif. Dieu ne l'appelle pas une caverne de voleurs. Dieu ne l'appelle pas une place du marché. C'est un lieu de rencontre. Oups là, pardon. L'histoire s'achèvera. Cette grande histoire qui commence par ce cri de Dieu « Où es-tu ?» elle s'achèvera lorsque l'accomplissement final et parfait de ce désir de vivre avec nous sera accompli. Parmi les derniers versets de la Bible, on entend ceci. Apocalypse 21, verset 3 nous dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. L'accomplissement complet et final, ce qui a émergé dans le jardin par une rupture, terminera par cette fin-là. Et plus tard dans ce chapitre, il nous dit, il n'y aura pas de temple. Dieu sera lui-même là. Le temple aura perdu sa raison d'être, puisque Dieu habitera pleinement parmi son peuple. Et aujourd'hui, évidemment, le temple n'est plus fait de la main de l'homme. La Bible est très claire sur cette réalité. Nous sommes le temple de Dieu, un temple spirituel. Et nous continuons à servir de lieu de rencontre, de maison de prière. L'éternel Dieu vit en nous et nous n'avons pas le droit de détourner sa définition du temple. Alors la raison d'être, eh bien, c'est que nous recherchons Dieu. Et le plan biblique, comment est-ce que ça s'insère dans le plan de Dieu, ce mouvement de maison de prière? Eh bien, c'est simplement que ça correspond au désir de Dieu. Alors, ça paraît simple. Hein, on veut Dieu, Dieu nous veut, on veut le connaître, il veut nous connaître. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Si tout est aussi évident que cela, pourquoi s'attarder encore plus sur l'importance de ce mouvement qui veut replacer au centre ce désir? On le veut tous. Oui, c'est bon, on sait, on a besoin de Dieu. Oui, on le chante. Merci, pas besoin de nous le rappeler. C'est ok, merci. Bien compris, je fais le catéchisme. Pas de problème. Pas de problème, vraiment. Est-ce que ça nous arrive pas par moments, des fois comme les religieux du temps de Jésus, de détourner un tout petit peu ce que Dieu nous a donné à d'autres fins, à d'autres objectifs? Et puis si ce désir est si prioritaire, comment est-ce qu'on gère nos priorités dans nos vies? Comment est-ce que ça fonctionne, ce choix, les choix qu'on a de gérer nos vies en fonction de ce qui est vraiment nécessaire pour nous? J'en arrive justement à ce troisième point. L'importance des maisons de prière, comme je le perçois, c'est de nous aider à hiérarchiser nos priorités. Pardon. Je découvre un peu mon PowerPoint en même temps que vous. Des fois, je me fais surprendre. Je vais un petit peu plus vite que ce que je devrais. Mettre de l'ordre dans nos priorités, c'est pas si simple. Et répondre au désir de Dieu par ce désir qui est en nous, c'est tout sauf super facile. Particulièrement dans notre monde hyper connecté, hyper dynamique, hyper. Vous voyez ? Et je vais vous donner un exemple en fait qui parlera peut-être aux étudiants pour montrer à quel point les étudiants savent bien gérer les priorités. En particulier les priorités liées au temps. Vous savez, moi j'ai fait donc des études à l'université, mais même plus tôt en fait au gymnase et à l'école, j'avais des délais, des deadlines comme on dit maintenant en vaudois. J'avais des délais. Dans 2 semaines, ce travail écrit doit être rendu. Bon, alors la première chose que j'avais envie de faire, bien sûr, c'était de me mettre à mon ordinateur et d'écrire. Non, évidemment pas. Quand j'avais ce délai qui me faisait coucou, c'est dans 2 semaines, et puis on voit l'horloge qui toc, 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 tic, tac, tic, tac, et que je voyais à côté des amis, on va faire du foot, j'ai de la guitare, d'autres choses à lire, et des petites vidéos qui apparaissent par là, un coup des WhatsApp qui disent bonjour. Forcément, la première chose qu'on fait, c'est pas ça. C'est difficile de gérer nos priorités. Ça m'est souvent arrivé, du coup, d'être frustré, me dire « mince, si j'avais su, j'aurais fait mieux ». Vous comprenez l'exemple, en fait, ça concerne pas uniquement les étudiants, ou peut-être que si, en fait. Mais la question des priorités, c'est très particulier, je pense que ça demande beaucoup d'études psychologiques pour comprendre comment est-ce qu'on gère nos choix. Quoi qu'il en soit, moi, je vois à travers l'histoire biblique, le besoin de la grâce de Dieu. Dieu, aide-moi à te choisir. Aide-moi à prendre la bonne décision. À réellement orienter mes choix vers ce qui est bon pour moi. Parce que tout seul, des fois, je suis un peu embêté. Et je crois que j'ai quand même le temps de m'arrêter sur un exemple biblique. Ça serait quand même terrible de ne pas pouvoir le faire. Mais j'ai été suffisamment rapide pour m'arrêter sur l'histoire d'Agée. Agée est un prophète juste après la déportation à Babylone. Le peuple d'Israël a fait beaucoup de bêtises, ils sont déportés en Babylonie, et puis après un moment, Dieu leur avait promis une restauration et ils reviennent en Israël. Mais tout a été détruit. Et là, vous voyez une image très dramatique, non, vous la voyez pas parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est une image très dramatique du temple détruit. Cette institution centrale a été détruite. Le peuple d'Israël s'est construit sur cette réalité-là. Dieu habite avec nous. Et le lieu de rencontre, c'est le temple. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le temple est détruit. Donc forcément, la première chose qu'on les voit faire dans le livre d'Esdras, c'est reconstruire le temple. Ils commencent par rétablir le système sacrificiel. Ils instaurent un autel. Gestion des priorités. Gestion des priorités, c'est tellement nécessaire pour nous que nous allons réinstaurer la relation avec Dieu. Cette relation très très concrète qui passe par le temple. Mais voilà, le temps passe, des menaces extérieures se font de plus en plus vives. Les personnes qui étaient sur place à ce moment-là sont pas du tout contents de voir Israël revenir et instaurer un temple. Il y a des menaces très très certainement aussi d'ordre spirituel. Et la réalité est que pendant 10 ans, le temple reste en ruine. L'autel a été reconstruit, mais c'est à peu près tout. Et Dieu va, à ce moment-là, susciter une voix. Un prophète qui s'appelle Agée, et qui va leur tenir à peu près ce langage. Ou alors là, vous ne verrez certainement rien du tout, mais si vous avez de bonnes oreilles, je vous encourage à les utiliser. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Hein, priorité, non. On a d'autres priorités, merci. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, vos maisons confortables, quand ce temple est détruit ? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Regardez, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Déception, frustration, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Alors voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Encore une fois, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'y produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Et hop, on revient en arrière. Les priorités. Elles semblent pas avoir été bien concrétisées. Pourtant, ça partait bien. Et je pense que, étant donné que nous partageons beaucoup de choses avec ces Israélites, notamment notre humanité, le fait d'avoir été créés à l'image de Dieu, ce désir-là, ce désir de communion, ce besoin de communion, ils le ressentaient. Et pourtant, il a été orienté sur autre chose. Alors, quels sont les obstacles ? Et on va s'arrêter rapidement sur deux. Premièrement, les menaces extérieures. Très, très rapidement. Il n'est pas facile de consacrer sa vie au service de l'Éternel. Avez-vous déjà expérimenté de l'incompréhension dans le regard de votre collègue, de votre cousin qui n'est pas croyant, de votre responsable qui ne comprend pas pourquoi vous devez annuler un rendez-vous important pour aller prier? Nous ne vivons pas actuellement la persécution physique, mais nous vivons d'autres sortes d'intimidation. Et pour régler nos priorités, il est important de comprendre que ces menaces extérieures, elles peuvent exister, mais qu'elles n'ont pas le dernier mot. Elles n'auront pas le dernier mot. Dieu envoie son prophète nous dire « il est temps ». Je suis avec vous. Je suis avec vous. Premier obstacle. Et puis deuxièmement, c'est ce que je résume sobrement et peut-être avec un brin de stéréotype par la distraction. C'est simplement le monde qui nous entoure, qui nous distrait. On a toutes sortes de besoins. On est persuadé que Dieu est le seul. On le confesse. Hein. J'ai besoin de toi, tu es tout ce dont j'ai besoin. On le confesse. Et la réalité, nos actions déclament autre chose. Et les Israélites, à ce moment-là, étaient bien conscients d'avoir ce besoin de Dieu. Et pourtant, ils s'orientent vers leur maison. Oui, ben, j'ai besoin de Dieu, mais Dieu va me donner ma sécurité, donc une maison sécurisée, c'est aussi important. Et bien sûr, toutes ces choses sont importantes. Mais en attendant, le temple est en ruine. En attendant, le temple n'est pas fonctionnel. Et la rencontre avec l'Éternel est brisée. Et c'est une réalité tellement dramatique que Agée, et l'Éternel va dire par l'intermédiaire d'Agée, que tout le système cosmique en est altéré. Vous êtes rendu compte qu'il parle de réalité météorologique. Je suis pas au centre. Tout est déréglé. Le temple est en ruine. La relation n'est pas reconstruite. Vous ne parviendrez jamais à reconstruire ce que vous avez perdu. L'Éden n'est pas reconstruisible par vos maisons. La réalité qui nous entoure, toute la société, est basée sur la nécessité de mettre Dieu à la première place. Conclusion. Alors, tout va arriver en même temps, je n'avais pas prévu le faire comme ça, mais j'aimerais vous laisser quelques questions, et puis comme je suis à 26 minutes, je pense qu'on aura le temps de les méditer, juste de les intégrer, et puis je terminerai par la prière. Si vous avez besoin d'en parler à votre voisin, d'échanger aussi par rapport à ces questions, sentez-vous libre.